Galade 100.9.
Parlons nutrition.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Nutrition pour cette émission du mois de janvier. Et bonjour à Charline Simian.
Bonjour Mathieu.
Comment ça va ?
Eh ben ça va bien. Je voulais vous souhaiter une bonne année déjà. Je suis très contente de vous retrouver en ce début d'année pour une nouvelle saison de Parlons Nutrition. Et je voulais vous demander comment se sont passées vos fêtes de fin d'année, Mathieu ?
Eh ben très bien, un peu chargé, mais de bons moments.
Très bien. Je voulais justement revenir sur ces repas de fête qui ont peut-être été un petit peu chargés. On se dit toujours, oui, les bonnes résolutions, je vais reperdre le poids que j'ai pris, je vais perdre du poids tout au long de l'année, ou on entend beaucoup en ce moment parler de détox après les fêtes, après la galette, après toutes ces bonnes choses qu'on a pu manger. Alors j'ai une excellente nouvelle pour vous, si vous avez des reins, des poumons et un foie qui sont encore en état de fonctionner, eh bien la détox elle se fait toute seule. Vous avez tous ces organes à l'intérieur de vous-même qui sont mis à disposition gracieusement et que vous pouvez utiliser pour vous détoxifier, le but étant de ne pas continuer sur ces repas trop riches, de reprendre en réalité les bonnes habitudes, pas besoin de se lancer dans une cure de radis ou de je ne sais quoi pour se remettre de ces fêtes de fin d'année.
Le corps est fait pour que ça se régule tout seul.
Exactement.
Même si on fait un excès.
Tout à fait. On a des phénomènes de régulation, par exemple, il me semble que ma collègue en avait parlé une fois, si vous mangez un plat riche une fois et que vous avez des restes, vous allez en manger une deuxième fois avec plaisir, et puis une troisième fois parce qu'il reste encore des restes, et là vous aurez moins envie d'en manger, et donc cette fameuse raclette que vous aurez mangée pendant deux ou trois jours, il y a un moment où on en aura un peu marre, on la mangera en moins grande quantité. Donc cette régularisation au niveau de l'appétit aide aussi à reprendre des bonnes habitudes et à réécouter en fait ses besoins à ce niveau-là. Voilà, c'était un petit peu le petit point de début d'année, de détox de début d'année. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous les étiquettes, d'aller un petit peu plus en profondeur sur qu'est-ce qu'on peut lire et qu'est-ce qu'on peut voir sur une étiquette. Sans être forcément un professionnel de l'alimentation ou de la nutrition, on peut avoir envie d'améliorer sa façon de manger, d'améliorer un certain nombre de ses choix alimentaires. Et ça peut être une espèce de brouhaha au niveau nutritionnel et au niveau de ce qui est écrit sur ces étiquettes. Je voulais revenir avec vous un petit peu là-dessus ce soir pour vous éclairer éventuellement un petit peu. En sachant que sur ces étiquettes, il y a des choses qui sont obligatoires, notamment le poids, notamment la dénomination du produit. Par exemple, si c'est un Hachis Parmentier, il faut qu'il y ait marqué Hachis Parmentier dessus. Vous avez des choses aussi essentielles, notamment le grammage. C'est des choses qui vont assez peu servir quand on veut faire attention. C'est des choses qui sont légalement obligatoires. Il y a aussi une obligation d'inscrire sur l'étiquette, alors plus ou moins visible, plus ou moins lisible, plus ou moins gros, un tableau des valeurs nutritionnelles. C'est souvent ce petit tableau où il y a marqué PLG, sucre, amidon, acide gras machin, acide gras truc, où on peut vraiment y perdre son latin.
On n'y comprend pas grand-chose en général.
Effectivement, on n'y comprend pas grand-chose. Parfois, il y a des pourcentages. Parfois, il y a des pourcentages d'AJR. Qu'est-ce que c'est un AJR ? C'est les apports journaliers recommandés. Ces apports journaliers recommandés, quand on les voit apparaître, ils sont pour un homme ou une femme et ou une femme d'âge adulte et qui n'est pas atteint de maladie. Ça ne concerne donc pas tout le monde.
Ouais.
Souvent, pour les produits plutôt à typologie pour les enfants, on est quand même sur des AJR, justement, des apports journaliers recommandés plutôt pour les enfants quand même. On a réussi à calibrer ça. Ce tableau nutritionnel, il était obligatoire c'est pas toujours évident de trouver les informations claires et précises. Je voulais vous faire un petit détail, je vais pas rentrer dans tous les détails, il y a tellement de choses de description qui peuvent embrouiller qu'on va pas trop détailler. Les protéines, on en a déjà parlé dans une émission précédente, c'est ce qui va être apporté par la viande, par le poisson, par les œufs qui peuvent être contenus dans votre produit ou par exemple les produits laitiers qui vont aussi apporter les protéines. Ces protéines, elles vont vous caler. Souvent, elles ne sont pas en excès dans les produits. En général, l'apport est quand même régularisé. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude autour des protéines. Après, ce qui peut être plus inquiétant, plus des points où il faut faire plus attention, où on a envie de faire plus attention, ça va être les fameux lipides. Lipides, ça ne veut pas forcément parler à tout le monde. C'est les graisses, en réalité. Ouais. Lipides égale graisse. Et parfois, dans ces apports de graisse, finalement, on va avoir des sous-catégories. Alors, ça s'appelle acide gras saturé, acide gras insaturé, acide gras polyinsaturé, acide gras monoinsaturé. On peut vous en sortir, on peut même vous sortir les termes techniques qui sont imprononçables et que je ne prononcerai pas ici. L'avantage de ces apports de graisse, ça vous permet de situer à peu près le taux de matière grasse, parce que souvent, ces pourcentages sont soit pour 100 grammes de produit, soit pour une portion. Je vous conseille, si vous voulez comparer deux produits, de plutôt les comparer aux 100 grammes, parce que selon la marque du produit, selon le distributeur du produit, la taille de portion n'est pas forcément la même. Du coup, c'est compliqué de s'y retrouver. Parfois, il est juste essentiel de regarder, si on veut comparer, il n'y a aucune obligation non plus de le faire, de se dire, je vais regarder plutôt aux 100 grammes, même si la portion, je ne vais pas la manger, ne va pas faire 100 grammes.
D'accord.
Au niveau de ces acides gras, je vous ai parlé d'acides gras saturés. On va reprendre les choses en se disant les acides gras saturés, c'est plutôt ceux qui vont être pas trop bons à la santé en excès, toujours, hein, cette idée d'excès et d'équilibre aussi. Donc s'il y a des acides gras saturés en excès dans l'alimentation, ça risque plutôt d'entraîner des choses de l'ordre de « je vais boucher mes artères, je vais avoir un peu de cholestérol », des choses comme ça.
Les acides... D'accord, donc c'est mauvais...
C'est pas top au niveau de la santé. Ouais. Au niveau de la santé, toujours dans cette idée d'excès, parce que ces acides gras saturés, ils sont quand même importants à apporter en quantité normale, si je peux me permettre cette expression. Ensuite, on a les acides gras insaturés qui, ceux-là, vont être plutôt meilleurs à la santé. C'est ceux qu'on appelle les bons gras. Vous savez, on a parfois vu des oméga 3, oméga 6, notamment dans les tartinables type margarine. Ça, c'est des acides gras qui sont plutôt protecteurs. En réalité, il faut un petit peu de tout. Maintenant, c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir le rapport, s'il est bon, s'il n'est pas bon. Je vous conseille vraiment, si vous souhaitez regarder, de regarder plutôt le pourcentage de matière grasse, finalement, qui, lui, va être assez parlant, si vous voulez un produit plus ou moins gras dans votre alimentation. Ensuite, souvent, on va trouver une dénomination qui va être soit glucides. Les glucides, c'est les sucres. Et souvent, dans cette catégorie sucre, il y a marqué glucides dont sucre.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va y avoir deux types de catégories de sucre. Les sucres lents, ceux qu'on retrouve dans les pâtes, le riz, les féculents. Et puis, ces fameux sucres sucré, et c'est cela qu'on appelle sucre. Si on veut regarder un petit peu la quantité de glucides, par exemple, si vous êtes sur un hachis parmentier, c'est normal qu'on ait pas mal de glucides. En revanche, s'il y a beaucoup de dons sucre, là, il y a quand même un loup.
Ça veut dire qu'ils ont rajouté du sucre dans le hachis parmentier.
Il y aurait du sucre sucré dans le hachis parmentier, ce qui paraît effectivement un petit peu étonnant. Donc, véritablement, si vous voulez regarder pour simplifier, dans les glucides, c'est surtout le don sucre qui est important, toujours plutôt aux 100 grammes, parce que la portion ne va pas toujours être la même. Par exemple, pour les biscuits pour petit déjeuner, il y en a qui vont vous dire la portion, c'est 2 biscuits, il y en a qui vont vous dire c'est 3, il y en a qui vont vous dire c'est 4. Le sachet, en général, il fait ni 2 ni 3, mais plutôt 5. Du coup, on va souvent manger quand même le sachet entier, donc ça ne fait pas tout à fait la portion recommandée. C'est assez compliqué de retrouver la portion recommandée. C'est là où quand on est un petit peu en perdition sur les portions, il est intéressant d'aller voir une diététicienne qui, elle, pourra, en fonction de votre profil, sportif, homme, femme, malade, pas malade, arriver à dire, voilà, votre portion à vous, c'est celle-ci. Ensuite, on va trouver souvent une description des vitamines, des minéraux, des choses comme ça qu'on va trouver dedans. J'ai un exemple assez criant pour les petits suisses aromatisés pour les enfants. Il y a marqué en teneur garantie en, enrichi en. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a pas mal de vitamines sur la liste de enrichi en, souvent calcium, vitamine D et tout un tas de vitamines. On se rend compte que en fait, on les a juste rajoutées dans le produit. C'est-à-dire que c'est marqué enrichi. Et
à,
c'est ça.
À la base, ça n'y est pas, ça a été injecté.
Exactement, on les a rajoutés de façon chimique, hein, finalement. Mmh. Finalement, on les a mis alors que le produit en était exempt à l'origine.
Et est-ce que c'est mauvais, du coup, si c'est enrichi ou...
Alors, c'est pas mauvais en soi que ce soit enrichi, ça permet d'avoir quand même cet apport en vitamines. Il faut savoir que les apports en vitamines, si j'ai mes apports journaliers recommandés en vitamines dans un produit, tout ce que je vais pouvoir apporter en supplément, comme c'est des produits qu'on ne peut pas stocker dans l'organisme, je vais les éliminer. Donc si je suis à, par exemple, 150% des apports journaliers recommandés dans mon produit, je vais prendre mes 100% et les 50% restants. C'est comme si je les jetais par la fenêtre. Je vais plutôt avoir une tendance à les suer ou à les éliminer par voie naturelle autre.
D'accord.
Donc ces apports-là, ils sont importants. Maintenant, quand on a un apport de vitamines ajoutées chimiquement, l'organisme les reconnaît parfois un petit peu moins bien. Donc il y a plus de difficultés à les utiliser en tant que tels. Je pense notamment à la vitamine C. Souvent, il y a des produits, on vous dit, comment est la dénomination déjà ? À teneur garantie en vitamine C. Et parfois, quand on regarde la composition, l'acide ascorbique, qui est le nom scientifique en fait, de la vitamine C, est utilisé comme conservateur.
D'accord.
Donc, il est intégré dans la dénomination comme teneur en vitamine. Or, il est là plutôt...
C'est le produit chimique qui fait que...
Il est plutôt là pour conserver le produit que pour être disponible pour vous, en réalité. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au niveau de la composition de ce fameux tableau nutritionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel parce que parfois ça peut vraiment être un charabia. Souvent on a aussi le taux de sel. Le taux de sel, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les gens qui feraient un régime limité en sel. C'est aussi intéressant de le regarder par exemple dans les boissons sucrées. Dans les boissons sucrées, en général, on a 0,01, 0,03 mg de sel. C'est juste la quantité nécessaire qui laisse un petit... Tiens, je ne suis pas tout à fait désaltérée. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais en reboire.
D'accord.
Donc en fait, cette petite pointe de sel qui fait que...
C'est pour créer l'addiction, enfin le...
La capacité à en boire plus, l'envie effectivement.
De plus, ouais.
Tout à fait. Après, dans ces étiquettes, il y a aussi des choses légales, notamment dans la liste des ingrédients. La liste des ingrédients est obligatoire. Et dans cette liste d'ingrédients, tout ce qui va être allergène. Fruits à coque, très souvent, le gluten, les produits de poissonnerie également. Il y a beaucoup de choses comme ça, les œufs, le lait, qui vont être souvent marqués en gras ou qui vont être rappelés ensuite.
Peut contenir des traces d'œufs à la fin.
Souvent, oui, parce qu'en fait, au niveau industriel, ce qui passé, c'est qu'on a des lignes de production qui peuvent produire tel ou tel biscuit. Et comme ils sont dans les mêmes établissements, les industriels ne veulent prendre aucun risque. Et du coup, on a vraiment cette idée que potentiellement, peut-être qu'un fruit à coque a sauté d'une ligne de production à l'autre. Et il y a un potentiel risque. Donc, on ne veut pas prendre la responsabilité de ce risque-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces étiquettes. Petite mise en garde, on avait parlé dans une émission précédente du fameux velouté aux champignons par rapport au velouté de champignons, et puis du yaourt arôme fraise par rapport à la vraie fraise qu'il pourrait y avoir dans un yaourt. C'est des petites attentions, vraiment lire la vraie dénomination.
Déjà, rien que dans la le nom du produit, il y a déjà pas mal d'informations.
Il y a pas mal d'informations. Et puis, alors, quand vous avez un beau champignon qui ressort bien, peut-être qu'il n'y a pas que du champignon aussi dans le produit.
Je me suis toujours demandé, il y a les steaks hachés et le haché de viande dans les produits surgelés. Est-ce qu'il y a une grosse différence ?
Elle est majeure. Elle est majeure. Alors déjà, sur les viandes hachées, on va avoir du pourcentage de matière grasse qui va de 5% de matière grasse, qui est assez peu finalement. C'est-à-dire quand vous mangez un steak de 100 grammes, vous allez manger que 5 grammes de matière grasse, ce qui fait une demi-plaquette individuelle. Vous savez, les petites plaquettes qu'on trouve dans les hôtels, si on devait...
Les petites plaquettes de beurre, là, ouais.
Exactement. Donc ça fait une demi-plaquette comme ça, ce qui est finalement tout à fait raisonnable. On peut monter jusqu'à 25%.
Ce qui fait 5 plaquettes de...
Déjà, et puis surtout, qui fait 25 grammes sur vos 100 grammes, donc un quart de votre produit qui n'est que du gras. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, un choix personnel. Mais c'est vrai que quand on a un steak 25% de matière grasse, je ne pense pas qu'il y ait nécessité de remettre de la matière grasse pour le faire cuire, par exemple. Il va assez être gras pour cuire tout seul. Maintenant, la préparation de viande, c'est un petit peu des pièges. Si vous voulez une qualité nutritionnelle meilleure, il va falloir être sur du 100% pur muscle. Et ça, c'est aussi marqué sur l'étiquette. C'est une obligation. La préparation de viande, il peut y avoir des tomates, des oignons, des choses où on va aromatiser, parce que la qualité de la viande est vraiment très limitée. Il faut savoir que sur ces hachés burgers, parfois, ça s'appelait aussi, on pouvait avoir jusqu'à 51% de texturant soja. En fait, c'était de la pâte de soja. C'est-à-dire que vous aviez 49% de viande.
Il y a moins de la moitié du produit qui est de la viande dans un truc qu'on trouve au rayon boucherie surgelée, mais au rayon viande quand même.
Exactement. C'est là où c'est problématique, parce qu'en plus, malheureusement, au niveau financier, très souvent, ce produit-là, il est beaucoup moins cher. Et des mamans qui n'auraient pas les moyens, ou des parents qui n'auraient pas forcément beaucoup de moyens, pensent donner un bon steak à leur enfant. Et finalement, on se rend compte que, nutritionnellement parlant, il y a un peu tromperie, malgré tout, parce que c'est pas marqué steak au soja et à la viande, c'est marqué haché de... Enfin, ça, ça ressemble véritablement à un steak haché, et probablement que sur l'emballage, vous avez de la viande hachée qui ressort. Yeah. Donc, véritablement, 100% pur muscle, vous avez l'assurance que ça restera 100% de viande.
Donc, tout ça pour dire que rien que dans le nom du produit, il y a déjà pas mal d'infos.
Il y a pas mal d'informations.
Il faut se méfier...
Quand il y a une belle fleur de vanille, quand il y a beaucoup de fraises sur l'emballage, parfois c'est juste arôme goût fraise.
Ouais.
Comme le prince goût chocolat. Il est plus haut chocolat, mais juste goût chocolat.
Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, ça brise des enfants.
Ça brise des rêves d'enfants, effectivement. Je suis désolée pour cette petite touche noire dans cette nouvelle année qui commence.
Donc moi, je retiens sur l'étiquette, déjà le nom en premier à bien lire. Il y a la part de lipides, les acides gras, la différence entre saturé et pas saturé. Dont sucre, c'est les sucres ajoutés. Enrichi en, ça veut dire que ça a aussi été rajouté. Et puis le taux de sel à noter, ça fait beaucoup de choses à regarder.
Ça fait beaucoup de choses à regarder. Et il y a une nouvelle chose dont on parlera peut-être après une petite pause musicale que je voulais voir avec vous, qui est le Nutri-Score qu'on voit apparaître un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment s'y repérer aussi avec cette nouvelle indication qui sera peut-être plus simple.
Eh ben, on en parle dans quelques minutes. Tout de suite, c'est les frangines avec Donnez-moi.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, hey. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon? Je t'aime pas, ça la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier.
Frangine sur Calade avec Donnez-moi.
Parlons nutrition.
Et on est donc dans Parlons nutrition avec Charline Simian. Aujourd'hui, on parle des étiquettes d'emballage, ce qu'il y a sur, décrit sur nos aliments. Et après avoir vu un petit peu tous les ingrédients qu'il pouvait y avoir, comment les décoder, on va aborder le sujet des Nutri-Score. Qu'est-ce que c'est un Nutri-Score ?
Alors, un Nutri-Score, c'est un outil qui a été créé suite au PNNS, en tout cas dans la continuité du PNNS, par l'État.
Alors, le PNNS.
Oui, je vous ai vu. Alors, le PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé. C'est un plan, en fait, qui a été mis en place et qui visait à améliorer en fait la santé de la population française. Vous l'avez sûrement vu, sans en entendre particulièrement parler, mais avec le fameux manger-bouger, avec les informations 5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers, ce genre de choses-là, qui a été remodifié un petit peu ces derniers temps. Il y a des nouvelles recommandations en fait qui sont sorties, qui sont moins strictes et qui invitent plutôt à aller vers des productions locales, vers un petit peu de bio, consommer des oléagineux, consommer des produits un peu plus complets au niveau des féculents, augmenter l'activité physique. Vraiment, ça reprend ces petites choses-là. Donc le PNNS, c'est vraiment un plan avec une espèce de guide pour les gens qui veulent prendre soin d'eux et puis aussi pour nous professionnels pour savoir vers quoi il faut tendre pour la population française. Dans cette idée, dans cette ligne droite, le Nutri-Score a été mis en place. Donc ce Nutri-Score, vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est ce petit logo classé du vert au rouge avec des lettres de A à E qui permettent de savoir d'un coup d'œil si le produit est globalement plutôt bon ou globalement plutôt mauvais. On a pu voir apparaître des choses qui peuvent être un petit peu troublantes, notamment du soda light qui serait bon, alors qu'on sait que le soda n'est pas forcément très conseillé dans une alimentation variée et équilibrée. En fait, ce qui se passe, c'est que ce Nutri-Score est évalué selon un certain nombre de critères qui ont été évalués soit positifs, soit négatifs. Ça nous permet d'avoir un score sur 100, et ce score sur 100 permet de coter l'aliment qui sera plutôt bon ou plutôt mauvais. Dans ces positifs, dans ces points positifs pour classer le produit, on a notamment la quantité de fibres qui vont être rassasiantes. On a aussi la quantité de protéines qui vont caler et qui vont apporter peu d'énergie. Il y a aussi la quantité de fruits et légumes dans le produit. Ça, c'est plutôt sur les points positifs. Sur les points négatifs, ceux qui vont impacter négativement le Nutri-Score, on va avoir la quantité d'énergie, on va avoir le taux d'acide gras saturé qu'on a vu précédemment, donc ces graisses qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé, les quantités de sucre et les quantités de sel. Donc on se rend compte que quand on va regarder un petit peu globalement le produit, il va y avoir des choses qui vont être plutôt bonnes ou plutôt mauvaises pour ce fameux Nutri-Score. Il faut savoir que ce Nutri-Score, il n'a pas d'obligation légale, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé à l'heure actuelle de la poser sur les produits. C'est pour ça que vous ne le voyez pas encore à l'heure actuelle sur tous les produits.
En général, quand il est là, c'est qu'il y a une bonne note.
Oui, il y a plutôt ce côté-là avec un souhait de l'industriel de mettre en avant son produit, ce qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher. Ouais. Lui, c'est quand même son gagne-pain. Ce Nutri-Score, il est sur la face de l'emballage. On parlait tout à l'heure du tableau nutritionnel qui peut être devant, derrière, dessous, on ne sait pas trop où le trouver. Des fois, on le voit en néerlandais avant de le trouver en français. Ça peut être assez compliqué à trouver. Là, le Nutri-Score, vous l'aurez en front, donc vraiment, vous l'aurez sous le nez. C'est vrai que ça peut être un vrai argument de vente pour l'industriel de mettre en avant que son produit transformé est meilleur au niveau du Nutri-Score qu'un autre. Ce Nutri-Score, il ne sera pas à poser sur votre pavé de bœuf, il ne sera pas à poser non plus sur vos légumes. C'est vraiment un score qui est censé coter les produits transformés. Ça vous permet d'évaluer, par exemple, entre deux hachis parmentiers, deux lasagnes, laquelle sera la meilleure au point de vue du Nutri-Score. Mmh. C'est aussi l'intérêt de ce Nutri-Score, c'est surtout pour comparer des aliments. Ouais. Maintenant, ça sert à comparer des aliments de même catégorie. Parce que si je compare deux choses qui n'ont rien à voir entre elles, ça n'a pas vraiment de logique parce qu'un produit peut avoir un Nutri-Score très bon, comme ce fameux Soda Light, alors que nutritionnellement, il n'est pas très intéressant. Et un produit nutritionnellement plutôt intéressant peut avoir un Nutri-Score qui sera moyennement bon. Il y a aussi eu des adaptations, notamment pour certaines catégories de produits sur le calcul de ce Nutri-Score. Je pense notamment aux matières grasses, parce que la matière grasse peut être transformée.
Ouais.
Elle est forcément trop grasse.
Elle aura forcément une mauvaise note.
Elle aura probablement une note qui ne va pas être terrible du fait de son taux de matière grasse. Je voulais évoquer avec vous alors, le côté positif de ce Nutri-Score qui peut vous permettre d'un coup d'œil de voir quel produit industrialisé sera le meilleur sur une même catégorie, on l'a vu. Je voulais aussi mettre en garde les auditeurs sur un risque de dérive qui m'a sauté aux yeux en réalité en préparant cette émission et en me penchant un petit peu sur le Nutri-Score, qui est, d'accord, donc dans les choses qui vont entraîner un défaut de Nutri-Score, je vais avoir l'énergie, les acides gras saturés et les sucres. Du coup, dans l'industrie agroalimentaire, il y a des choses qui existent pour diminuer l'énergie et le sucre notamment, qui sont les édulcorants. J'ai un petit peu peur qu'on se retrouve dans une situation où les industriels modifient la composition de leur repas, modifient la liste des ingrédients pour atteindre un meilleur Nutri-Score, notamment à l'aide d'édulcorants ou en réduisant les matières grasses, mais en apportant plus de texturants. Donc en n'améliorant pas la qualité nutritionnelle du produit, mais malgré tout en améliorant le Nutri-Score. C'est un petit peu le défaut de la chose.
D'accord. Ils arrivent à réduire ce qui leur donne des mauvais points pour
améliorer le Nutri-Score, qui est quelque chose qui est très visuel et qui va vraiment nous sauter aux yeux. Malheureusement, ça arrive assez rapidement au niveau industriel. On arrive à modifier les compositions juste pour vendre plus, parce que le Nutri-Score sera meilleur si on met tel produit, tel édulcorant, plutôt que du vrai sucre, par exemple.
Et du coup, un soda peut avoir l'air bon pour la santé.
Tout à fait. C'est un petit peu le défaut, effectivement.
D'accord. Donc, Nutri-Score a un bon outil, mais à prendre avec des pincettes.
À prendre avec des pincettes, à savoir utiliser aussi pour comparer deux produits de même catégorie et en faisant attention aux modifications de recettes, nouvelles compositions. Voilà.
D'accord. Eh ben, merci Charline pour ces conseils, pour savoir un peu ce qu'on mange, qu'on met dans nos assiettes. Ça va être la fin de cette émission.
Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et puis vous dis à bientôt.
Galade 100.9. Pardon.
Parlons Nutrition.